Commencer tout de suite cette seconde rencontre de l'après-midi avec Toby Nathan. Ceux qui étaient là hier soir ont pu découvrir une face moins connue de Toby Nathan, Toby Nathan romancier, auteur d'ethno-romans, d'ethno-polar même, ou de romans tout court. On a pu écouter avec plaisir ce roman apparaître le 19 août qui s'intitule « Ce pays qui te ressemble ». Voilà. Et cet après-midi, donc, c'est l'autre face beaucoup plus connue de Toby Nathan, le théoricien, l'ethnopsychiatre, un des principaux représentants de l'ethnopsychiatrie.
Le seul.
L'unique. Non, mais parce que, pour tout dire, j'allais dire le fondateur, et puis apparemment... Partout, ce n'est pas indiqué comme fondateur.
Mais non, mais pas modeste.
Voilà. Donc, au hasard des titres, je citerai quelques ouvrages pour mémoire de son œuvre théorique, l'ouvrage récent. La nouvelle interprétation des rêves qui est parue en 2011 chez Odile Jacob et en lien en particulier avec notre thème, L'étranger ou le Paris de l'autre, qui est paru aux éditions Autrement en 2014. Voilà, j'en resterai là. Et pour dire simplement que Toby Nathan a choisi d'intituler sa conférence « Métaphysique du commerce avec l'étranger ». Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Merci, merci de votre accueil. Merci d'être là ce soir. On m'entend ? Ouais. Hein ? Non ? Ah, bon, alors, je ne sais pas comment on fait, mais... Faut parler entre les micros. Alors, comment vous dire ? La question que j'aimerais poser avec vous, c'est la question de l'étranger, mais non pas un autrui, non pas un semblable, mais un étranger, vraiment un étranger, c'est-à-dire un autre radicalement autre. Pour vous donner un exemple, est-ce que vous avez la moindre idée de ce que peuvent penser, comment peuvent penser des êtres qui ne partagent pas le même milieu que nous ? Par exemple, les oiseaux. Qu'est-ce qu'ils pensent, les oiseaux qui vivent en trois dimensions alors que nous, on est en deux dimensions ? Qu'est-ce que pensent les poissons ? Et qu'est-ce que pensent les araignées qui ont quatre paires d'yeux, par exemple. Quatre paires d'yeux. Comment on pense quand on a quatre paires d'yeux ? Et puis quand on a quatre paires de pattes, laquelle patte, quand on dit « maman », c'est où, c'est laquelle ? Enfin, cette question-là, c'est-à-dire des autres radicalement autres, quelle est la pensée de ces autres radicalement autres ? Vous allez me dire « oui, mais l'imagination peut suffire, on va se mettre... » Mais il y a eu des romans de science-fiction qui ont imaginé des êtres avec plein de pattes et tout ça. Mais l'imagination peut suffire. Mais elle est limitée, notre imagination. Elle est contrainte, elle est dans un carcan. Et qu'est-ce que c'est que ce carcan dans lequel nous sommes pris ? Eh bien, je crois que c'est une des définitions que nous pouvons donner au mot identité. Identité, c'est précisément ce carcan qui empêche notre imagination. C'est précisément ça, l'identité. Alors, dans la vie concrète, cette identité... Oui, je vous ai dit, je ne vous ai pas dit d'ailleurs, je vais commencer à parler de moi avant de parler de l'étranger, de moi, de vous, de chacun de vous quand il dit moi, quoi. Dans la vie concrète, l'identité n'existe pas comme une donnée objective, elle se révèle dans des circonstances et elle réagit à des procédures. Elle s'exprime par exemple avec une force considérable lors d'un match de football, par exemple, revendiqué, enthousiaste, frénétique, en hurlant avec ceux qui la soutiennent, je me révèle un supporter de telle équipe. Et elle est donc identité dans sa mise en scène. Et elle est si expressive qu'elle pourrait correspondre à la définition même du mot identité, qui veut dire, comme vous savez, le fait d'être ce que l'on est et rien que ce que l'on est. Du moins, durant les moments de l'exaltation du match. Mais or, ces fêtes du stade, ces folies collectives, qui donc peut affirmer qu'il est ce qu'il est et rien que ce qu'il est? Eh bien, cette question, qui es-tu? Moi, je l'ai posée à un de mes amis, qui est un ami béninois, qui est Yoruba, enfin on dit Nago, au Bénin on dit Nago, d'une famille originaire de Porto Novo, et quand je lui demande « qui tu es, toi ?», il me répond, enfin, je m'attendrais à ce qu'il me réponde, « je suis un tel, fils d'un tel, Yoruba du Bénin, par exemple », si correspondait à l'identité telle que nous l'entendons habituellement. Mais il ne répond pas ça. Il me répond « je suis un crocodile ». C'est pas une blague, hein. C'est exactement la conversation que nous avons eue avec mon ami béninois dont je vous parlais tout à l'heure. Il m'a affirmé que s'il est un crocodile, c'est que l'ancêtre de sa famille est un crocodile. Et donc, comme toute sa famille, il est un crocodile. Et devant mon incrédulité, parce qu'il ne ressemble pas du tout à un crocodile, il a illustré sa déclaration par un exemple, disons, empirique. Il ne doit sous aucun prétexte manger la chair du crocodile. Et si trompé par une main perverse, parce que évidemment c'est immédiatement à sa qu'on pense, moi je ferais bien un ragoût de crocodile, est-ce qu'il va s'en rendre compte, qui lui servirait justement un ragoût, il lui arrivait malheureusement de le faire, de manger du crocodile, il m'a répondu qu'il en mourrait, ou plus probablement, il deviendrait fou. Cette affaire de « il deviendrait fou », c'est une expérience que j'ai eue, pas de devenir fou malheureusement, il paraît que Lacan disait qu'on ne devient pas fou qui veut, mais bon, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas ça ne m'est pas arrivé. Mais en revanche, je me suis retrouvé un jour à Abomey, au Bénin justement, en plein milieu d'une association de guérisseurs qui étaient spécialisés dans la folie. À mon initiative, cette réunion était à mon initiative, je leur avais dit, voulez-vous, on va se réunir tous ensemble et vous me direz qu'est-ce que c'est la folie pour vous, moi je vous dirai qu'est-ce que c'est la folie pour moi, puis vous me direz comment vous soignez la folie, puis je vous dirai comment moi je soigne la folie. On s'est tous retrouvés là, puis on a commencé à parler, et puis à la question, qu'est-ce que c'est que la folie et comment on devient fou, ils étaient à peu près tous d'accord. On devient fou en mangeant l'animal qui est son ancêtre. Ils étaient tous d'accord là-dessus. On devient fou de cette manière. C'est-à-dire que nous, on ne sait pas très bien comment on devient fou. Je sais pas. Vous savez, vous, comment on devient fou? Comment on peut rendre fou quelqu'un, quoi? Non, c'est-à-dire, devenir fou, on est toujours abasourdi devant l'existence d'un fou, puis on ne sait pas quoi en faire, mais est-ce qu'on sait rendre fou quelqu'un? Les Béninois, ils savent, hein. Et il suffit de faire manger du crocodile à quelqu'un dont l'ancêtre est un crocodile, et hop, à tous les coups, il devient fou. Mais comment est-ce qu'ils le savent? C'est une procédure. C'est une procédure. C'est-à-dire, ils ont un fou devant eux, et puis ils disent « Qui es-tu ?» Alors, ils commencent à parler, « Qui je suis ?» Ils démontent, puis ils disent « Ah, mais qui est ton ancêtre? Comment on t'a nommé? Qui est ton ancêtre ?» Et après, ils disent « Mais qu'est-ce que tu as mangé ?» Ah, dans le ragoût, là, t'es sûr que c'était du ragondin? Ah ben, ou que c'était du boa? Ou que c'était du poulet bicyclette, hein, je sais pas. Et non, je suis pas sûr. C'était du ragoût. J'ai pas vu la viande. Je sais pas qui l'a coupé. Eh ben, te pose pas les questions plus loin. C'est bien ce qui t'est arrivé. Donc, la démonstration de cette appartenance, c'est une crise de folie au décours de laquelle un personnage qu'au Bénin on appelle Baba Lao, c'est-à-dire Baba, le père, quoi, le maître, Lao, le secret, le maître du secret. Ce personnage, on lui a posé la question, et c'est ce personnage-là qui a décidé, il a mangé de l'animal qui est son ancêtre, et c'est pour ça qu'il est devenu fou, et il entreprend le traitement. On comprend donc que ce qu'il est vraiment, c'est-à-dire quand je lui demande ce qu'il est, il ne peut pas répondre véritablement, on ne peut y répondre que par une procédure, et une procédure d'urgence, quand il est justement en état d'urgence, quand il est devenu fou, quand il est en crise. Et maintenant, si je m'adresse cette même question à moi-même, à moi, Toby Nathan, quoi. En quoi suis-je ce que je suis et rien que ce que je suis? Je pourrais même pas répondre à cette question. Non pas parce qu'elle est difficile, mais dans ce sens précis que je viens d'énoncer, pour l'ethnie à laquelle j'appartiens, c'est-à-dire les juifs qui sont vraiment juifs, hein, je veux dire pas les ashkénazes ou les trucs comme ça, les juifs, quoi. Seul Dieu possède une identité, car lui seul n'est que ce qu'il est. La preuve, c'est que c'est ainsi qu'il se présente à Moïse, vous le savez. Exactement par ces mots, « Je suis celui qui est ». Vous vous souvenez? C'est comme ça qu'il se présente. Que peut bien signifier cette phrase, sinon que tous les autres êtres qu'il peut m'arriver de rencontrer, les humains, les animaux, les autres dieux aussi, peut-être, sont des manières d'hybrides, et qui, comme vous, comme moi, quoi, constituées d'éléments multiples, des agglomérats, autrement dit. Et pour insister encore sur sa spécificité irréductible, Dieu révélera son nom à Moïse. Et je parle de celui que l'on a conservé jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire le tétragramme Yud-He, Vav-He, dont la signification en hébreu est une déclinaison du verbe être. C'est-à-dire, encore plus étrange, le syntagme « celui qui est » est à la fois son nom et son principal attribut. Alors si Dieu est le seul à n'être que ce qu'il est, comment est-ce que moi je pourrais même essayer de répondre à la question « qu'est-ce que tu es ?» et rien que ça que tu es, quoi. Et comment pourrais-je même essayer de répondre à cette question? L'autodéfinition de Dieu, du Dieu de mes ancêtres, je veux dire, implique que, en tant que juif, je ne pourrais définir mon identité que de manière négative, et je la formulerai ainsi, je fais partie de ceux qui ne sauraient discuter de leur propre identité, cette question étant frappée d'interdit, puisque c'est la seule question à laquelle seulement Dieu a une réponse. Ça va? Donc, on sait qui je suis, c'est celui qui peut pas. C'est lui qui peut pas ceci ou cela. Gardons par conséquent à l'esprit que l'identité se révèle toujours dans des entreprises, des procédures, au décours donc de procédures, et souvent de manière négative. Mais il est au moins une procédure, ça va? Vous me suivez toujours? Mais il est au moins une procédure. Oui, parce que les Juifs, c'est un peu spécial, mais c'est pas très spécial. Vous allez voir que ça ressemble à plein d'autres ethnies normales, je veux dire. C'est-à-dire, c'est par exemple le mot vivant, quoi. Les êtres humains, les Juifs savent très bien que les êtres humains ne sont pas vivants. Le mot hay, vivant, ne va jamais avec être humain. Être humain, c'est pas vivant. Dieu est vivant, bien sûr. C'est le seul, d'ailleurs, dont on dit toujours le Dieu vivant. Donc, ceux qui pratiquent les psaumes, j'espère qu'il y en a parmi vous qui vont à côté pour faire des psaumes, tout ça, non? Chez les voisins, non? Non. Et, ben, savent qu'on dit souvent le Dieu vivant, le Dieu vivant. Dieu est vivant. Le peuple juif est vivant. Am Israël, Hay. Le peuple d'Israël est vivant. Mais je pourrais jamais dire que moi, je suis Hay. Je suis pas vivant. C'est pas possible. Parce que vivant, pour les juifs, signifie ayant une pensée autonome. Vous avez une pensée autonome, vous? Ben, vous rigolez ou quoi? Déjà, rien que la langue, elle est complètement truffée de pensées des autres. Et vous êtes déjà complètement formaté, vous n'avez pas de pensée autonome. Donc on ne peut pas dire, ben, bien sûr, moi non plus, hein, je veux dire. Mais donc, ce n'est pas un être humain qui peut avoir une pensée autonome. Dieu peut avoir une pensée autonome. Le peuple tout entier pense. Les peuples pensent. Enfin, moi, je fais partie de ces groupes dont il y a quelques survivants dans la salle, d'ailleurs, de ce groupe qui pensait que les peuples pensent, quoi. Bon, on parle plus de tout ça aujourd'hui, hein. Et, bon, enfin, si vous voulez, je vous en parlerai tout à l'heure, mais c'est pas ça la question. Et donc, chez les Juifs, par exemple, donc, le Dieu pense, Dieu est vivant, puisqu'il pense, il a des pensées originales, le peuple est vivant, et les morts sont vivants. Ben oui, parce que les morts produisent des pensées originales. C'est pour ça que le cimetière, eh ben, un des noms du cimetière en hébreu, c'est Beth El Haïm, c'est-à-dire la maison des vivants. Comment est-ce qu'on appelle un cimetière? La maison des vivants. Parce que les morts sont vivants. Pourquoi? Parce qu'ils produisent de la pensée autonome. Ce que les êtres humains ne savent pas faire, et donc les êtres humains ne peuvent pas être qualifiés de vivants. Ça va, vous m'avez suivi? Tout va bien. Alors, mais il est au moins une procédure très généralement répandue dans les sociétés humaines, qui possède pour principale fonction de définir l'identité d'une personne. Et je pense que c'est quelque chose de très important, même si on n'y accorde pas l'importance qu'il faut aujourd'hui, c'est la nomination. Alors, une vulgate psychanalytique un peu naïve, on va dire, une psychologie pour magazine féminin qu'il a ensuite relayé, nous ont laissé penser qu'il est naturel de nommer un enfant selon la fantaisie de ses parents. Alors, par exemple, Freud a appelé son premier enfant Jean-Martin parce que Charcot, son maître, s'appelait Jean-Martin, un autre Ernst parce qu'un autre de ses maîtres s'appelait Ernst Bruck, et une autre Mathilde parce que l'épouse d'encore un autre de ses maîtres, il avait beaucoup de maîtres apparemment, mais un mec qui parle tout le temps de ses maîtres comme ça, moi j'y ferais pas confiance. Hein. Et donc Breuer et la femme de Breuer s'appelait Mathilde, donc il a appelé sa première fille Mathilde, etc. Et donc cette idée comme ça que les fantasmes des parents produisent les noms des enfants. Il existe des mondes civilisés, ça c'est la sauvagerie totale, hein. C'est la sauvagerie. Et il existe des mondes civilisés, il existait autrefois ici aussi en France, hein, mais partout, hein, il existait des mondes civilisés où on ne nommait pas un enfant, on découvrait son nom. Ça signifie que l'enfant a déjà un nom. Le nommer, c'est trouver le nom qu'il a. Ça va? Vous me suivez? Alors, les traditions africaines procèdent selon ce principe général, même si son application est différente selon les lieux et les temps. Là, on ne nomme pas un enfant, donc, je vous disais, on découvre son nom, c'est-à-dire que les personnes chargées de faire sortir le nom de l'enfant, c'est comme ça qu'on dit faire sortir le nom de l'enfant, qui sont en général des anciens, des grands-parents, des responsables religieux, considèrent donc qu'il a déjà un nom. Et comment est-ce qu'on peut le trouver, ce nom? Eh bien, on peut le trouver en posant la question. Alors, à un enfant, on pose les trois questions qu'on pose à un étranger. Qui es-tu? D'où viens-tu? Pourquoi viens-tu? Un enfant, c'est un étranger. Donc, évidemment, on ne va pas lui attribuer un nom. On va lui demander qui es-tu? Alors, on pose la question à l'enfant. Évidemment, il répond, l'enfant. Il répond, mais il ne parle pas la même langue que les adultes qui posent la question. S'il a 8 jours, il a 8 jours, c'est quand il a 8 jours. 7 jours, ça dépend des lieux, c'est 7 jours, 8 jours. C'est une semaine à peu près. C'est après le premier bain, en fait. Hein. Et quand on le met sur le sol, quoi. Et alors on dit, qui es-tu? Et alors, comment est-ce qu'on obtient la réponse? On obtient la réponse parce que, en fait, la qualité de l'enfant, l'identité de l'enfant, en quelque sorte, s'est manifestée au travers d'événements, en fait. C'est-à-dire que sa qualité, son être même, s'est révélée aux modifications qu'il a produites dans l'environnement où il est apparu. Donc, qu'est-ce qui s'est produit? Alors, d'abord, sur la mer, qu'est-ce qui s'est produit dans la famille? Qu'est-ce qui s'est produit dans le village? Qu'est-ce qui s'est produit dans la lignée pendant que cet enfant était en train d'arriver? Dès les premiers instants où il a montré son nez, quoi. Ça ne veut pas dire forcément que sa mère, les moments où sa mère a été enceinte, hein, ça peut être un peu avant. Il commençait à montrer son nez déjà, hein, et un peu avant. Ça peut être un peu après aussi. Mais en tout cas, on interroge les événements. Et alors, c'est comme ça que, par exemple, au Congo, je vais vous donner quelques exemples congolais, je vais m'arrêter un tout petit peu sur des exemples de nomination congolaise, vous allez comprendre. Par exemple, au Congo, on peut s'appeler « La souffrance était amère ».« La souffrance était amère ». C'est-à-dire, pendant que tu étais en train d'arriver, on a eu beaucoup de malheurs et la souffrance était amère. Ou bien, le croque-mort n'a pas chômé. C'est des noms, hein. Le croque-mort n'a pas chômé. Ou bien encore, je vais revenir sur un nom précis tout à l'heure. C'est que, au fond, on pourrait penser que c'est pas très sympa d'appeler quelqu'un comme ça. Mais détrompez-vous. Un nom, parce que vous pensez que, je sais pas ce que vous pensez, hein, mais j'imagine que, par exemple, vous pourriez penser que quand on dit Jules, on croit qu'on s'adresse à Jules. Mais quand on dit Jules, mouche ton nez, par exemple. Jules, mouche ton nez. Quand on dit Jules, il y a des gens qui écoutent. Il y a des gens qui écoutent, qu'on ne voit pas. Et lorsqu'on dit le nom de l'enfant, on parle à l'enfant et on parle aussi aux gens qui écoutent, en fait. Aux gens qui sont là et qu'on ne voit pas et qui écoutent. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, c'est comme si on disait, on a bien vu que le destin de cet enfant était marqué par le malheur depuis sa conception. Ce malheur s'applique à cette famille par l'intermédiaire d'êtres qui sont venus la persécuter. Chaque fois que je prononce son nom, je dis à ces êtres, faites attention, je vous ai repéré. Et en fait, vous croyez que c'est un nom de dérision, mais c'est en fait un nom de protection, en fait. C'est une sorte d'amulette qui enveloppe l'enfant et qui lui dit, il ne t'arrivera rien parce qu'on a reconnu ces forces terribles qui sont là et qui vont assaillir et toi et la famille. Alors, je vais prendre un exemple concret. Par exemple, c'est un garçon dont j'ai eu à m'occuper. Il s'appelait Mampasi. Mampasi, ça signifie en Kikongo, c'est un jeune garçon qui est né au Congo-Brazzaville. Et en Kikongo, qui est une des langues véhiculaires du Congo-Brazzaville, le mot signifie difficulté, peine. Mampasi est bien le nom par lequel on appelle l'enfant. Mais il faut bien faire attention, il n'est que le résumé du nom. En fait, derrière ce nom se cache une phrase entière. Comme souvent, hein, les noms, c'est souvent une phrase qu'il y a derrière. Et c'est une phrase qui est condensée dans un mot qui sous-entend la connaissance de la phrase entière. La phrase entière, tout le monde la comprendrait sitôt qu'il s'interroge la parole, c'est « Les difficultés de la grossesse, les douleurs de l'enfantement ont été vaines, elles n'auront servi à rien, car malgré toutes les souffrances qu'a endurées sa mère, cet enfant va mourir. » C'est ça que ça veut dire, « Mampasi ». On dit ça, mais en fait, on sait très bien que ça, c'est pour protéger l'enfant, parce qu'on dit, en vérité, qu'il y a des êtres qui sont là et qui le guettent pour le dévorer. Ces êtres, il les appelle des ndoki, des sorciers, si vous voulez. Et le nom ne s'adresse pas à l'enfant, il s'adresse au ndoki. Et chaque fois qu'on prononce son nom, on dit aux êtres, « Eh, on vous a vu, vous ne pouvez pas vous attaquer à cet enfant-là. » Donc, on comprend bien que désigner quelqu'un, désigner l'identité de quelqu'un, c'est d'abord par une contraction, deuxièmement, c'est une phrase donc, qui est contractée et elle ne s'adresse pas aux êtres humains, mais à des gens qu'on ne voit pas, des êtres invisibles ou des êtres disparus. Ça pourrait vous sembler très lointain, mais comme je sais que vous êtes des lecteurs assidus de la Bible, parce que vous allez juste derrière, il devrait vous être familier, ce développement que je viens de faire. Ça vous a paru complètement exotique, comme ça, mais parce que vous ne vous souvenez plus de la façon dont la Bible relate la nomination des enfants de Jacob. Vous vous souvenez? Je vais prendre juste le premier, hein, je ne vais pas vous persécuter avec tous les noms de Jacob. Mais le premier, vous savez comment il s'appelle? Il s'appelle Réhouven. Vous vous souvenez? Ruben, c'est un prénom qui est courant, quoi. En plus, mon fils, il a fait un fils. C'est mon petit-fils, un de mes petits-fils, et il l'a appelé Ruben. Et il ne sait même pas ce que ça veut dire, quoi. C'est quand même étonnant, quoi. Bon, enfin, je lui ai expliqué, il m'a dit, je ne veux pas m'embêter avec ces choses-là. Bon, alors, le récit est le suivant. Léa conçut et donna naissance à un fils. C'est dans le texte, hein. Elle le nomma Réhouven, car, dit-elle, Dieu a vu mon humiliation. Donc elle ne donne pas un nom n'importe lequel. Elle dit, car Dieu a vu mon humiliation. Maintenant, ajoute-t-elle, mon mari m'aimera. C'est comme ça le texte, exact. Le contexte auquel il se réfère maintenant, vous le connaissez évidemment, Jacob avait épousé deux sœurs. Pareil, c'est complètement interdit, mais enfin, il l'avait fait. Mais enfin, c'est les patriarches, ils font tout ce qui nous est interdit, hein. Donc si vous voulez devenir patriarche, vous savez ce qu'il faut faire, quoi. Alors, il avait épousé deux sœurs. Léa était la première épouse, mal aimée de Jacob, qui lui préférait sa sœur Rachel, vous vous souvenez, il était amoureux de Rachel. On se souvient qu'il dut épouser l'aînée, travailler encore 7 ans pour son oncle Lavanne, le père des deux jeunes filles, avant d'obtenir la cadette comme seconde épouse. La Bible nous apprend que Jacob aimait Rachel d'amour et respectait Léa. Mais Léa, elle n'aimait pas du tout ça. Elle se sentait humiliée par le fait que son mari la respectait seulement, alors qu'il aimait sa petite sœur. Lorsqu'on lit le texte, on constate que le nom de l'enfant, Réhouven, comme les noms congolais que nous discutions plus haut, a été choisi en référence aux émotions de sa mère. Alors, puisque c'est comme ça qu'on fait, on va ouvrir ce nom, on va essayer de comprendre. Il est composé de deux syntagmes, Réhou, interprété dans le texte, en fait, comme s'il était Ra, il se fiche de nous dans la Bible, hein, parce qu'il dit, il a vu mon humiliation, mais il a vu, ça ne se dit pas Réhou, ça se dit Ra. Alors, il se fiche de nous, quoi. Il a vu, c'est pas il a vu, c'est pas il a vu, c'est Réhou. Réhou, ça veut dire regarder. Ça ne veut pas dire il a vu. Il a vu, et ben, quoi, c'est le fils. Alors, le texte propose l'interprétation suivante. Le texte biblique dont on dispose propose l'interprétation suivante. En fait, c'est une phrase entière. Et cette phrase serait la contraction, serait la suivante. Dieu a vu, donc ça devrait être Ra, mais c'est Réhou dans le texte, mon humiliation. Il m'a donné un fils, Ben. Maintenant, mon mari m'aimera. Et là aussi, il manque une autre partie. Parce que ce qui est sous-entendu, plus qu'il n'aime ma sœur. Parce que c'est ça le problème, évidemment. Puisqu'il aime la sœur, et c'est elle qui donne le fils. Donc, maintenant qu'elle a le fils, il va peut-être l'aimer plus qu'il n'aime la sœur, quoi. Bon, c'est un peu naïf comme réflexion, mais enfin, c'est quand même, c'est humain, quoi. C'est donc l'interprétation que propose le texte. Ici, le nom est une phrase qu'il faut reconstituer, construit comme une amulette aussi. On voit bien à quoi sert ce nom, hein. Parce qu'un gamin qui naît dans de telles conditions, la maman, Léa, est sûre que Rachel va lui jeter un sort, quoi. Bah, c'est sûr. Vous êtes d'accord. Bon. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle le protège. Elle le protège de quoi? De la jalousie de sa sœur. Et donc, elle met dans le nom la protection contre la jalousie de la sœur. Vous êtes d'accord, hein? Donc, c'est bien comme ça qu'est construit. Ça va? Bon, on est d'accord. Mais l'interprétation n'est tout de même pas satisfaisante, car elle nous contraint à une approximation, à prendre « Ra, il a vu » pour « Réhou, voyez, regardez », ce qui n'a évidemment pas échappé aux commentateurs. Alors Rachi, dont on vous a parlé hier, qui est le célèbre exégète de Troyes, on propose une lecture très différente, et il lui propose de rapporter le prénom « Réhouven » à la phrase suivante. Il faut beaucoup d'imagination, hein, pour commenter la Bible. Alors, il propose de rapporter le prénom Réhouven à la phrase suivante. Voyez, Réhou, et là c'est correct, voyez, la différence entre mon fils et le fils Léven. Et c'est à ce moment-là qu'on voit Ven. Donc il y a Réhou, voyez, tout le développement que je viens de vous dire, et puis Léven, et là vous avez Ven. Et le fils Léven. De mon oncle, vous n'avez jamais vu l'oncle, hein, c'est lui qui a rajouté l'oncle, il faut entendre le fils de mon oncle comme son mari, c'est son cousin. Voyez, bah, c'est comme ça qu'est construit c'est le commentaire de Rachi, hein, j'invente rien du tout, hein, c'est le commentaire de Rachi, puisque Léa et Jacob donc étaient cousins germains. Elle renvoie au fait que Jacob s'est indûment approprié le droit d'aînesse normalement dévolu à son frère Ésaü, et que lors du fameux épisode du plat de lentilles, que vous connaissez tous évidemment, la phrase prédit par conséquent que le fils qui vient de naître à Léa, Réhouven, sera reconnu comme aîné sans aucune contestation, pas comme son père. Donc c'est une petite pique contre le père quand même, en même temps. Et tout ça c'est dans le prénom. Donc on comprend bien que quand elle dit Réhouven, mouche ton nez, elle dit plein de trucs à son mari, à sa sœur, à tous les êtres qui l'entourent, vous comprenez? Et donc le prénom a bien été choisi, comme ce que j'étais en train de vous dire. C'est donc une ruse. C'est donc une ruse. Le prénom est une ruse. J'ai un enfant et je l'appelle Réhouven parce que Dieu a vu mon humiliation. Ça fait vachement sérieux, mais en fait, c'est une ruse. Maintenant, il y a une autre interprétation encore qu'on trouve dans le Zohar. Mais enfin, il y en a 10 hein, des interprétations. Je ne vais vous en faire que 3. Hein. Alors, elle commence ainsi. Réhouven. Alors là, c'est parfait. Regardez un fils. Réhouven. Regardez un fils. Waouh ! Réhouven, un fils. L'explication vient ensuite, puisque la seconde partie de la phrase, constituons le nom, et cette fois, et il est parfaitement constitué. Regardez, Ben, un fils, et il est parfaitement constitué. Il ne présente aucune tare, c'est ça que ça veut dire. C'est bien la preuve qu'en couchant avec moi, mon mari n'a pensé à aucune autre femme. Parce que ça c'est le midrash du Zohar. Là encore, une phrase entière, alors là aussi c'est une ruse plus une ruse au carré si vous voulez. Bon, il nous faut retenir ici, je ne vais pas épiloguer sur cette affaire, il nous faut retenir ici que dans ces systèmes de nomination, qui sont des systèmes de culture normale, quoi, je veux dire, pas qui pensent que c'est le fantasme des parents qui produit l'enfant, le nom de l'enfant, quoi. Et on présuppose une identité à l'enfant, et cette identité, on va la repérer dans les événements du monde. Alors, ce rapport avec ces êtres qui posent des problèmes à Mampassi, qui mettent le désordre dans l'univers, ce rapport, eh bien, qui sont les véritables étrangers, ces êtres qu'on ne connaît pas et qui ont, on va dire, et qui ont des. Enfin, le seul intérêt de la vie, c'est de connaître leur façon de penser, quoi, puisqu'ils nous concernent au plus proche. Eh bien, dans beaucoup de cultures, on considère que ces êtres, de temps en temps, sont tellement intéressés par les humains qu'ils vont s'emparer de leur corps. L'existence de ces êtres est connue et décrite depuis l'Antiquité, vous savez, ils sont réputés. Ils sont réputés être à l'origine de désordres atteignant tant les personnes que les familles, les maisons ou même parfois les villages entiers. Leurs attributs sont lisibles dans les noms qui les désignent. Et je vais vous prendre l'exemple d'une seule, j'allais dire aire géographique, c'est pas une aire géographique, c'est une aire linguistique, on va dire. Une seule aire linguistique, et les langues sémitiques, cet être. Cet invisible non-humain, dont je n'arrête pas de vous parler, eh bien, on l'appelle en amharique, qui est la langue véhiculaire aujourd'hui en Éthiopie, l'amharique, qui est une langue sémitique, on l'appelle Zar. Mais Zar, moi je les connais les Zar, hein, ils y en avaient en Égypte, hein, je vous ai raconté un peu hier, pour ceux qui sont venus à la lecture, comment on les rendait présents. On l'appelle Zar en Amérique, on l'appelle Jinn en arabe, et on l'appelle pas que jeune en arabe, il y a plein d'autres mots. Jeune, vous connaissez le mot jeune, c'est le djinn de Victor Hugo, hein, c'est de là que ça vient, jeune. Et on l'appelle shed en hébreu, qui sont les trois langues sémitiques vivantes aujourd'hui, quoi. Enfin, il y a aussi l'araméen qui est vivant aujourd'hui, mais enfin, il est quand même quasi disparu, quoi. Les mots peuvent sembler très éloignés les uns des autres, mais c'est comme si leur sens dans une langue renvoyait au mot de la langue voisine. De la langue cousine, je veux dire. Le même mot, zar, qui désigne l'esprit invisible chez les Éthiopiens, devient en hébreu, il existe en hébreu, zar, on vous en a parlé hier, hein. Zar existe aussi en hébreu, zar, le mot zar. En hébreu, il veut dire l'étranger. Alors, en amharique, il veut dire l'esprit, le diable qui s'empare du corps des femmes, c'est zar. En hébreu, il veut dire l'étranger, que l'on retrouve par exemple dans un mot qui est très très courant en hébreu, c'est mamzer. Mamzer, ça veut dire bâtard, quoi. Mais qu'est-ce que ça veut dire un bâtard? Ça veut dire un mec qui a fait rentrer l'étranger dans la maison, quoi. Mamzer. Un mamzer, mais c'est une insulte. T'es un bâtard. C'est comme on dit t'es un bâtard en français, on dit un mamzer en hébreu. Et de quoi on l'accuse? D'avoir fait rentrer l'étranger dans la maison, de nous avoir mamzérisé, quoi, c'est-à-dire rendu et étranger, qui nous a imprégné de cette substance d'étranger, en quelque sorte. Bâtard, celui qui a été conçu avec un étranger. Et on reconnaît ce même mot en arabe comme déclinaison du verbe zir, zir en arabe, la ziara, pour les arabisants qui sont là, connaissent ziara. Ziara, ça veut dire la visite. Zar, ben, c'est le visiteur. Et c'est absolument pas cet être qui vient et qui s'empare de vous. C'est au contraire ce visiteur qu'on est tenu d'accueillir et à qui on doit l'hospitalité. On doit lui laver les pieds, vous savez comment c'est la tradition chez les Arabes, chez les Bédouins du désert par exemple. Hein. Donc on l'accueille, etc. On lui doit tout, on lui doit la nourriture, l'accueil, etc. En glissant d'une langue à une autre, l'esprit éthiopien, c'est un esprit en Éthiopie, est devenu l'étranger en hébreu et le visiteur en arabe. Ça va ? Donc, il est donc un concept commun aux langues sémitiques qui désigne l'altérité et qui se décline selon une ligne qui va de la possession, possession au sens où nous on dit être possédé par un esprit, de la possession par un zar, où l'hôte, celui qui accueille, est pris, capturé, possédé par l'étranger, jusqu'à son contraire qui met l'accent sur l'hospitalité que l'on doit aux visiteurs, comme dans la ziar, à la visite, etc. Décidément, Maïmonide, pour une fois, avait raison, qui prétendait que, dans son guide des égarés, qu'on ne peut pas lire les textes anciens, comme la Bible, par exemple, si on ne maîtrise pas aussi les deux autres langues sémitiques dominantes à son époque, c'est-à-dire l'araméen et l'arabe. D'ailleurs, le guide des égarés, il l'a écrit en arabe. Le mot « gen » en arabe, qui désigne ce même type d'invisible non humain susceptible de prendre possession d'une personne, est tributaire d'une constellation de significations autour de la notion de caché. Jinn est ce qui ne peut pas se voir. L'utérus, par exemple, de la femme, qui se dit avec un mot de la même racine, jana. Jana, c'est l'utérus. Ou son locataire, le fœtus, qui se dit janine. C'est la même racine que jinn, qui périrait de son dévoilement. Dissimulation fondamentale, principe d'existence de cet être que l'on assimile ici à la fertilité, le jinn est associé à la force invisible qui fait pousser les plantes dans un jardin. Jardin que l'on dit comment ? Jenena. Jenena, ça veut dire l'espace des jinns. Qu'est-ce que c'est qu'un jardin ? C'est l'espace des jinns. Jinn serait l'équivalent arabe, au fond, de la phusis grecque, qui ne saurait mieux se traduire que par purgescence des plantes et des sexes. Rien d'étonnant à ce que les Grecs, comme les Romains, aient parsemé leurs jardins de priapes ou de satyres ityphaliques, ou encore tout simplement de phallus de pierre, pour honorer non pas la fertilité, comme on l'affirme souvent, mais bien l'excitation débridée du vivant. Et cette excitation débridée, elle n'est pas chez l'être humain, elle est chez le gène. Et si vous voulez avoir cette excitation débridée, vous ne pouvez l'avoir que par une association avec le gène. Et l'on retrouve cette même racine gène dans le plus puissant des jardins, le paradis, qui se dit genet en arabe, genet en amharique, et gan eden en hébreu, qui veut dire, comme vous le savez bien sûr, le jardin d'Éden, c'est ça le paradis. Mais c'est quoi ? C'est un jardin, c'est-à-dire le monde des djinns. Ça va ? Vous m'avez suivi ? Donc c'est là, on est resté uniquement à la signification des mots. Alors, je ne vais pas épiloguer sur cette affaire. Un étranger, oui, mais pas dans le sens que nous donnons le mot, que nous donnons à ce mot dans nos démocraties. Lequel ici désigne un semblable qui possède une autre nationalité, c'est ça un étranger, donc ça n'existe pas en fait. Dans nos démocraties, nous n'avons jamais rencontré d'étrangers. Nous ne savons rencontrer que des semblables qui n'ont pas la même langue, qui n'ont pas la même nationalité, mais tout ça, ça peut changer. Et donc, c'est des semblables, c'est des mêmes, c'est pas des autres. C'est cette expérience de l'autre, cette expérience de l'autre pour laquelle ces sociétés qui ont une culture ancienne, en fait, et ont une véritable expertise, c'est comme si nous l'avions oublié, cette expérience de l'autre. Un autre véritablement autre qui n'appartient ni à notre espèce, ni à aucune autre espèce observable. C'est à cet étranger que nous devons une hospitalité sans réserve, puisque nous ignorons ses intentions. C'est ainsi que le mot... Bon, enfin, je ne vais pas rentrer dans cette affaire. Et nous devons retenir un premier principe, donc, de l'exploration de l'altérité, plutôt que de décrire l'étranger à partir du connu, ce qu'on fait toujours. Les pauvres, regardez, ils doivent souffrir, ils sont comme nous, machin, etc. Et donc, évidemment, au bout d'un moment, ils en ont marre, les pauvres, qu'on décrit comme des pauvres qui doivent souffrir, etc. Et puis, ils font n'importe quoi, parce que et ils ne sont pas reconnus pour ce qu'ils sont. Ils sont reconnus pour être des comme nous, moins que nous. Des sans-papiers, des sans-logement, des sans, etc. Donc ce n'est pas des étrangers, ce sont des semblables avec quelque chose en moins, en quelque sorte. Il nous faut au contraire établir les règles pratiques permettant d'appréhender un autre qui ne partagerait aucune des conditions d'existence. Et à partir de ces règles, nous pouvons envisager un commerce possible avec l'altérité. Alors, pourquoi est-ce que c'est moi qui vous en parle ? C'est une évidence, hein, tout ce que je viens de vous dire, c'est une évidence, c'est dans les mots, c'est vous le saviez, tout ça, c'est une évidence. Alors, pourquoi est-ce que c'est moi qui vous le dis ? Parce que, en fait, la rencontre avec ces invisibles non-humains survient selon les règles d'une hospitalité absolue, celle du dévouement, du respect, etc. Parfois, ces histoires de possession, parfois elles tournent à ça, soit sous l'empire de la violence et de la maladie. Et comme c'est ce que je fais en général, c'est m'occuper de ce type de maladie, eh bien c'est pour ça que j'ai quelques, peut-être, petites compétences à vous en parler. Mais je vais m'en tenir encore au vocabulaire. En arabe, le mot qui dit « fou », quel mot on utilise pour dire fou ? Il y a un mot, hein, savant, pour dire fou, mais on l'utilise quasiment jamais, c'est pas dans la langue courante, quoi. Hamok, mais qui a donné Hamok, que vous connaissez, Hamok, de Stefan Zweig, bien sûr. Donc, mais c'est un mot savant de la langue savante en arabe, mais personne n'utilise jamais le mot Hamok. En revanche, le mot courant, c'est Majnoun. Majnoun, ça veut dire fou. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Majnoun, mot à mot ? Ça veut dire pris par un djinn, Majnoun, pris par un djinn. Et c'est à la fois un mot qui désigne le fou et aussi l'étiologie. Mais on a cette étiologie en français. Quand vous dites par exemple il est cinglé, ou il est frappé, mais c'est qui c'est qui l'a frappé ? Qui c'est qui l'a cinglé ? Avec quel fouet il l'a cinglé ? Il y a bien un être là. Qui est là, pas loin, qui a foutu une baffe, qui a envoyé un coup de fouet, il a cinglé avec son fouet. Donc il y a bien des étiologies comme ça dans la langue, en fait. Alors, bon, je vous passe, mais en tout cas, c'est pas étonnant que qu'en arabe, jnoun, le pluriel de jinn, est donné jenan. Et jenan, ça signifie la folie. Comme si la langue postulait que le secret de la folie sera révélé à celui qui parviendra à connaître le fonctionnement de tous les djinns. Celui qui connaîtra tous les djinns, à lui sera révélé le secret de la folie. C'est pour ça que la folie s'appelle Jenan, c'est-à-dire le monde des djinns, quoi. Alors, après, une fois que le mal a été causé, il faut négocier les soins. Et il s'agit toujours de reconnaître l'identité, non pas de la personne. C'est-à-dire, on ne va jamais dire à un malade « qui es-tu ?» Ce qu'on dit tout le temps, nous, dans nos façons de faire ce qu'on appelle, entre guillemets, la psychothérapie. On dit « qui es-tu ? Comment tu t'appelles ? D'où tu viens ? » etc. Si jamais on ferait ça, c'est parce que ce n'est pas la personne qui nous concerne. C'est l'être qui est présent. C'est à cet être-là qu'il faut poser la question, et la question, évidemment, de son identité. On dit... À ce moment-là, on dit que la personne, en français, on dit que la personne est possédée. En arabe, on dit jamais la personne est possédée. On dit, elle est, on dit même rien, on dit il faut hadra. Hadra, ça veut dire il faut la présence. Il faut présentifier l'être qui est là. Il est là du fait de la maladie. Qu'est-ce que c'est que la maladie? C'est la présence de l'être. Comment on répond à cette maladie? En faisant hadra, c'est-à-dire la présentification de l'être. Ça va, vous me suivez toujours? Ouais, vous avez l'air un peu fatigué. Bon, je vais faire... C'est... Alors, ces cultures dans lesquelles on reconnaît, et toujours de manière procédurale, l'existence d'étrangers, étrangers entre guillemets, dotés de puissance et dont le commerce introduit au cachet, ces cultures, évidemment, ont une relation beaucoup plus fluide avec les étrangers au sens où nous l'entendons. C'est semblable d'une autre nationalité. Il semble que la reconnaissance de l'altérité radicale permette une certaine souplesse dans l'appréhension de toute la gamme des altérités plus communes, on va dire. Si nous avons la chance d'avoir commerce avec une altérité de cette nature, on devra laisser se développer ce secteur de la société, attendant de lui qu'il fournisse secret et créativité. Parce que c'est ça qu'on attend des gènes, c'est un échange. Hein. C'est pas, on n'accueille pas les gènes pour ça, pour, comme ça parce qu'on est poli. On les accueille parce qu'on va partager. Eux ont la créativité, ce que je vous ai raconté, c'est-à-dire la turgescence un peu désordonnée du vivant, et nous, on a la cité, quoi, l'organisation du monde. On leur dit, on vous donne un peu de cité, et vous nous donnez un peu de créativité. Et cet échange-là se fait, chouette, à l'occasion d'un malade, quoi. Donc les malades, c'est bien. C'est bien parce que ça peut apporter un peu plus d'inventivité, de créativité dans notre communauté. C'est pour ça que c'est avant le grand renfermement hein, dont a parlé Foucault, par exemple. Ce grand renfermement provenait évidemment du fait qu'on n'arrivait plus à utiliser les malades pour faire parler les esprits. À partir du moment où on ne savait plus faire parler les esprits à travers les malades, alors on n'avait plus qu'à s'en débarrasser des malades. Alors, on se souvient de cette histoire. Elle est très très bien racontée, je vous la raconte, je vais terminer là-dessus, et je vous y renvoie, bien sûr. Elle est très très bien racontée dans Euripide, dans les Bacchantes d'Euripide. Toute l'histoire des Bacchantes d'Euripide, ce n'est que ça. C'est l'arrivée d'un être comme ça. Il arrive et il dit « Je viens instaurer mon culte ». C'est extraordinaire. Un dieu qui vient et qui dit « C'est lui son propre représentant, quoi. Son représentant de commerce, c'est lui ». Il dit, je viens mettre mon culte là, en place, là, ici. Alors les gens lui disent, ça va quoi, hein, ça va pas, non, tu viens nous mettre le désordre. Et il dit, non, vous allez faire mon culte. Et il y a deux vieux, ces deux personnages sont essentiels. C'est Cadmos, le fondateur, et Tirésias, le devin. Les deux vieux, là, au début de la pièce, ils disent, est-ce que nous allons être les seuls à danser avec Bacchos? Bacchos, c'est le dieu qui arrive, c'est Dionysos, hein, vous savez. Et donc, est-ce que nous allons être les seuls à danser avec Bacchos? Et à ce moment-là, Tirésias répond, oui, car nous sommes les seuls à être gens sensés. Tous les autres sont fous. Tous les autres sont fous, c'est quasiment une prédiction. C'est le début de la pièce. Hein. C'est quasiment une prédiction. Pourquoi? Parce que, comme les êtres humains ne veulent pas se soumettre alors à la mise en place du culte de Dionysos, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Dionysos, il rend les femmes folles. Et les femmes se mettent à courir sur la montagne. Là. Elles courent sur la montagne et elles font ce qu'on appelait en grec une orgie. Une orgie, ça ne veut pas dire forcément qu'une orgie sexuelle. En fait, c'était un peu sexuel quand même. Hein. Mais c'était aussi beaucoup d'autres choses, des danses et surtout des sacrifices d'animaux. Et ils déchiraient les animaux avec les mains et ils buvaient le sang comme ça, comme on fait encore en Éthiopie, c'est-à-dire à la carotide, on égorge l'animal avec les mains et on boit le sang à la carotide. Et ils font ça et les hommes deviennent cinglés, quoi. Qu'est-ce qui est arrivé à nos femmes? Qu'est-ce qui est arrivé à nos femmes? Et là, Dionysos dit... Il va voir le roi, je vous raconte la pièce là, mais vous la connaissez bien sûr. Il va voir le roi, et le roi s'appelle Pentheos. Pentheos, ça veut dire le chagrin, le deuil. En fait, c'est vrai que c'est un bonhomme assez chagrin, quoi. Le mec, on vient, on lui met la fête dans sa ville, là, et il dit, non, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Fichez-moi ce trublion dehors. Il veut mettre Dionysos dehors. Comment est-ce qu'on peut mettre un dieu dehors? C'est pas possible. Donc, à un moment, Dionysos lui-même lui dit, tu veux savoir ce qui se passe entre les femmes, là, l'orgie, là, sur la montagne, tu veux savoir ce qui se passe? Et Panthée dit, ouais, je veux bien. Il dit, bah, tu vas monter sur l'arbre, là, tout là-haut, et là, tu seras planqué, tu pourras regarder. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit sa mère et sa tante, Agave et Ino, c'est sa mère et sa tante, en train de cavaler quasiment à poil, de choper des panthères, des petites panthères. Il est scié, quoi. Il regarde ça. Et à ce moment-là, elle le voit. Parce que quand on regarde, on est vu aussi. Elle le voit. Agave voit. Et elle dit, oh, regardez là, un lionceau. Et elle se précipite sur Penthéos. Et ces femmes devenues folles égorgent Penthéos, le roi, et le décapitent. Et Agave, la maman, chaque fois qu'on dit maman en français, on prend les violoncelles, tout ça. La maman Agave, elle rentre dans la ville en tenant la tête de son fils dans les mains. Vous imaginez l'état de folie, de dénégation dans lequel elle est. Et quand son père la voit, son père c'est Cadmos, quoi. Il dit, mais qu'as-tu fait, malheureuse? Elle dit, mais tu vois le beau lionceau que j'ai pu attraper? Et là, il comprend qu'on ne peut rien contre Dionysos. Rien d'autre que quoi? Qu'organiser le rite. Donc, pour mettre en œuvre cette présentification, pour entrer en relation avec ces étrangers, il y a une seule façon, c'est le rite. Alors, il me reste 5 minutes, je vais vous dire comment ça s'applique aujourd'hui. Ça, je vous ai raconté des histoires d'ailleurs. Je vous ai raconté des histoires d'autrefois, que vous connaissiez d'ailleurs. Cette histoire d'autrefois, c'est les bacchantes d'Euripide. Tout le monde connaît les bacchantes d'Euripide. Mais c'est ça qu'il y a dans les bacchantes d'Euripide. C'est ça que raconte Euripide avec une précision et une intelligence extraordinaire de ce que c'est qu'un dieu qui veut instaurer un culte, quoi. Alors, comment ça se passe dans le monde moderne? Dans le monde moderne aussi, il y a des forces nouvelles qui arrivent. Et ces forces nouvelles qui arrivent, elles sont puissantes. Elles s'emparent des gens. Elles les rendent malades. Et puis, elles demandent quoi? Un culte, en fait. Et comment est-ce qu'on arrive à comprendre quel est le culte? Et comment est-ce qu'on met en œuvre ce type de fonctionnement, ce rituel-là, qui a été évoqué par les bacchantes d'Euripide? Je vais vous prendre juste un tout petit exemple. Au fond, les bacchantes, c'est le groupe de femmes, hein, qui se réunissent pour honorer Dionysos. C'est ça, les bacchantes, hein, c'est le groupe de femmes. Qu'est-ce que c'est que ce groupe de femmes? C'est un groupe d'usagers. C'est un groupe d'usagers. Et des groupes d'usagers, c'est notre avenir, en fait. C'est notre passé, dans les bacchantes, c'est notre avenir. Je vais vous prendre un seul exemple. Il y avait une maladie, il y a toujours, elle existe toujours. Cette maladie s'appelle la maladie de Gilles de la Tourette. C'est une maladie très bizarre, parce que c'est une maladie. Gilles de la Tourette a eu un coup de chance, quoi. Il a vu 5 cas. À partir de 5 cas, il a isolé un syndrome. Et ce syndrome a survécu à tout. Tous les autres syndromes décrits par la psychiatrie du 19e siècle sont tous caducs, obsolètes. Sauf celui-là. Syndrome de Gilles de la Tourette, ça a gardé son nom d'ailleurs. C'est la maladie des tics, vous savez. Donc on a des tics physiques, des tics vocaux aussi, des tics, des sursauts comme ça. Et cette maladie, il était sûr que c'était une maladie particulière. Cette maladie, c'est pas une maladie. C'est une maladie, c'est pas une maladie. C'est une singularité physiologique, comme le sont toutes, en fait, les maladies psy. Hein. Il n'y a pas de maladie psy. Il n'y a que des singularités de gens, quoi. Et c'est une singularité physiologique, en fait, qui rend les gens, en effet, extrêmement attentifs à des détails, en fait. Et ça donne des gens extrêmement intelligents, attentifs, minutieux, etc. Mais en même temps, qui souffrent beaucoup de ces sursauts, de ces tics, etc. Et ces gens-là ont beaucoup souffert, non pas seulement par leur maladie, mais par leur thérapeute, comme souvent, hein, à peu près toutes les maladies. Par leur thérapeute. Il y a eu la période où on leur filait des calmants. Ensuite, il y a eu la période où on a tous voulu les mettre en psychanalyse. Ils ont fait 20 ans de psychanalyse. Ils avaient toujours autant de tics, évidemment. Et après, on les a mis sous neuroleptiques. Les sous-neuroleptiques, ils étaient tellement abrutis que même les tics étaient abrutis. Mais enfin, je veux dire, ils avaient toujours leur tic, mais en moins fort, quoi, mais ils avaient toujours leur tic. À la fin, ils ont dit, il y en a marre. Ils se sont constitués en association. Et ça, ça a une date, c'est 1985, exactement 100 ans après la découverte par Gilles de la Tourette du syndrome de Gilles de la Tourette. C'est 5 familles de jeunes gens qui sont des adolescents atteints de la maladie de Gilles de la Tourette qui s'associent avec un psychiatre qui s'appelle Shapiro et qui crée la première Tourette Syndrome Association. C'est une association qui devient extrêmement compétente dans la connaissance de ce qu'est le syndrome de Gilles de la Tourette et qui, quand il y a quelqu'un qui commence à avoir le symptôme, il dit « Viens rejoindre notre association, notre groupe d'usagers. » C'est groupe d'usagers de quoi ? De la psychiatrie ou de la maladie, si vous voulez. Et ce groupe d'usagers, il vient et il interroge les psychiatres, les gens qui les soignent, que ce soit les psychiatres, les infirmiers, etc. Il leur dit « Pourquoi vous me faites ça ?» C'est pas ça. La recherche dit pas ça. Non, on refuse. On refuse de prendre les médicaments. On refuse de prendre ceci. Et c'est le groupe d'usagers qui s'est constitué grâce à la force. Cette force, c'est le syndrome de Gilles de la Tourette. Donc vous avez, en effet, l'apparition d'une force. Cette force, eh bien, elle se manifeste sur des personnes en les rendant malheureuses. La réponse à ça, c'est la constitution d'un groupe d'usagers et le groupe d'usagers répond par des rites à cette force. Et c'est exactement ce qui est en train de se dérouler autour de cette histoire des associations d'usagers autour des syndromes de la psychiatrie. Je vous donne un autre exemple, mais je ne vais pas vous le développer. Par exemple, il y a une association qui est en train de se développer à toute vitesse aujourd'hui, qui s'appelle, vous allez très bien comprendre ce que c'est que cette association, elle s'appelle l'association des entendeurs de voix. Vous devinez ce que c'est. C'est-à-dire, parce que essayer de voir, d'aller voir un psychiatre et de lui dire « Hier, j'ai entendu des voix », ça m'étonnerait que vous réchappiez à la prescription de neuroleptiques. Hein. Ça m'étonnerait. C'est à peu près infaillible pour avoir des neuroleptiques. Enfin, personne n'a envie d'avoir des neuroleptiques. C'est même pas, ça fait même pas des trucs sympas, quoi. Donc, il y a plein d'autres médicaments qui font des trucs sympas, mais ça fait pas de trucs sympas du tout. Donc, cette association des entendeurs de voix, eh bien, c'est pareil, ils disent « on entend des voix, c'est vrai, mais c'est pas pour ça qu'on veut ces médicaments. On veut se retrouver entre nous et comprendre ensemble comment on gère nos voix, comment ces voix deviennent moins insultantes, plus pratiques, et comment elles peuvent nous rendre service. » Et à partir de là, ça y est, on s'est guéri de la malédiction de la modernité. Merci.